Le journal des idées, Jacques Munier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Comme je viens de le dire, donc les déclarations d'Emmanuel Macron sur la colonisation ont fait revenir au goût du jour le débat sur la question.
Absolument. Et deux historiens apportent leur contribution au débat dans Le Point. Pierre Vermeren, qui publie chez Belin « La France en terre d'islam, empire colonial et religion, 19e-20e siècle ». Et Olivier Grenouillot, qui analyse sept récits d'aventuriers français et anglais dans un ouvrage intitulé « Quand les Européens découvraient l'Afrique intérieure », publié chez Talendier. Pierre Vermeren, d'abord, évoque le fantasme du royaume arabe depuis Bonaparte. La France a participé à la naissance des nations américaines, allemandes, italiennes. Elle pense, par sa vocation émancipatrice, contribuer, sous Napoléon III, à celle de la nation arabe. L'historien spécialiste du Maghreb ajoute l'élément géopolitique. Il s'agit à l'époque de rivaliser avec l'Angleterre, grande puissance musulmane grâce aux Indes, et l'Allemagne, qui tisse des liens étroits avec l'Empire ottoman. Mais l'entreprise a aussi une dimension utopique, portée par les Saint-Simoniens qui font la politique arabe de l'empereur. Napoléon III envisage un roi arabe qui serait cependant le suzerain de la France. L'émir Abdelkader s'y refuse, lui qui avait lancé le djihad contre la conquête de l'Algérie. Mais le rêve arabe ne disparaît pas pour autant. Il persiste sous d'autres formes jusqu'à De Gaulle et sa fameuse politique arabe. Après 1871, observe Pierre Vermeren, on bascule progressivement vers une Algérie des colons qui n'est plus celle des militaires qui avaient su établir un modus vivendi avec les notables et les chefs de tribu. Ceux-ci, désarmés, souvent dépossédés de leurs meilleures terres, pratiquent alors l'islam dominant dans les campagnes, confrérique et soufi, incluant le culte des saints. Mais au tournant du XXe siècle, apparaît dans ces régions l'islam salafiste, né d'une volonté de réforme et de retour à la tradition, orchestré par les oulémas d'Al-Azhar, au Caire, suite à l'invasion de l'Égypte par les Anglais en 1882 et à l'affaiblissement de l'Empire ottoman. Les Français ne l'ont pas vu venir, à part des personnalités comme Charles de Foucault ou à sa suite l'orientaliste Louis Massignon. Une erreur d'appréciation qui va perdurer pendant la guerre d'Algérie. Deux tendances animent l'anticolonialisme, l'une politique et syndicale, consiste à retourner contre l'ennemi colonial les armes qu'il lui a transmises. L'autre, salafiste et identitaire, s'emploie à former les élites urbaines capable de parler au peuple. Les deux tendances convergent après 1962, année où le FLN, constitué surtout de soldats, car beaucoup d'intellectuels ont perdu la vie durant la guerre, confie les clés de la société à ses salafistes. L'historien souligne que, dès les années 1950, dans les zones de combat des Aurès ou de Kabylie, il régnait déjà un ordre salafiste, appelé alors islaïste, dans certains maquis. Pas d'alcool, pas de musique, interdiction de fumer sous peine de mort.
Colonialisme année zéro, Olivier Grenouillot revient quant à lui sur l'avant des découvreurs de l'Afrique intérieure.
Oui, une grande aventure par des hommes jeunes, portés par des envies d'ailleurs, qui s'en vont à l'aventure, parfois tout seuls, sans mandat officiel de leur État. Animés par un souci abolitionniste, ils découvrent avec consternation que l'esclavage est pratiqué par les chefs africains. Et s'ils dénoncent des clichés, l'Africain n'est ni indolent, ni paresseux, mais travailleur et hospitalier. Pour ces voyageurs pressés par l'immensité du continent à découvrir, mais très dépendants des chefferies locales dans leur périple, l'attitude des autochtones a pu sembler terriblement paralysante, ce qui leur fournit au passage l'occasion de descriptions ethnographiques détaillées, voire d'une anthropologie inverse. Je cite, « Les Africains pensent que les Européens sont cannibales, qu'ils vivent sous la mer et qu'ils sont dotés de pouvoirs très importants. » Ce dernier trait va d'ailleurs faciliter leur progression dans le continent noir, en particulier pour les plus solitaires et désarmés d'entre eux, car les puissances africaines sont encore très présentes militairement.
Et l'intention est alors de rapporter des connaissances sur ce continent inexploré, Jacques.
Et oui, et de toute nature d'ailleurs, notamment agricole et botanique. Pour nombre d'entre ces explorateurs, l'idée c'est aussi de remplacer la traite des esclaves par le commerce, l'échange de produits, du travail libre des Européens et des Africains. Parmi ces aventuriers éclairés, il y a Jean Thaddée Dibowski, le héros rimbaldien du roman de Thomas Roverdi, avec la complicité du jeune historien Sylvain Venère, Jardin des colonies, publié chez Flammarion. Jean Jean-Thaddée Dybowski, né à Charonne, un signe pour ceux qui s'intéressent au passé colonial de la France, est allé dans le sud algérien, au Tchad et au Congo. La mission qu'il s'est assignée constituait de nombreuses et très sérieuses collections botaniques, zoologiques et ethnographiques, écrit-il au ministre de l'Instruction publique, dont il espère une participation au financement. Les acteurs ont retrouvé la trace du personnage... Les auteurs, pardon, oui. ont retrouvé donc la trace du personnage en bordure du... Ils sont un peu acteurs, d'ailleurs, dans le livre.
Je sais deux... que le lapsus n'est pas gratuit.
Merci. Donc, l'ont retrouvé, ce personnage, ont retrouvé la trace, en tout cas, en bordure du bois de Vincennes, près de l'actuel musée de l'histoire de l'immigration, dans le jardin colonial qu'il avait réalisé, la même, d'ailleurs, où fut construite la première mosquée en France.